France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a des cas ici qui refusent d'être traités. Ils disent que l'esprit refuse d'accepter le traitement.
Il dit que la maladie s'aggrave parce qu'il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas se faire soigner au niveau des centres de santé.
Dans le ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle priorisation. Donc la lèpre n'est pas priorité pour eux. Pour le moment, c'est le sida, le palu et la tuberculose. Donc la lèpre, c'est maladie négligée.
Ce sont d'abord de simples taches qui apparaissent sur la peau. Mais en réalité, cette maladie grignote lentement les nerfs, entraînant une perte de la sensibilité, déformant les mains, les pieds, les visages. La lèpre fait peur depuis des millénaires. Heureusement, depuis 1982, un cocktail d'antibiotiques a permis de guérir plus de 16 millions de malades dans le monde. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, la lèpre a été éliminée en tant que problème de santé publique. Pourtant, la transmission reste active. Plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Des chiffres très sous-estimés selon la Fondation Raoul Folraud, qui souligne que la réalité du terrain, les instabilités politiques, les difficultés d'accès empêchent le bon recensement. 50% des populations touchées vivent en effet dans les lieux d'extrême pauvreté. L'un des principaux foyers de la lèpre est justement l'île de Madagascar, frappée par la sécheresse et les cyclones. Un pays en plein désarroi économique et social, dont les trois quarts des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Un pays où les préoccupations du quotidien font passer à l'arrière-plan la prise en charge d'une maladie pourtant curable. Madagascar démuni face à la lèpre, c'est un reportage signé Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
Votre reportage nous donne l'occasion de revoir quelques idées reçues qu'on peut encore avoir sur la lèpre. On a souvent cette image des lépreux qui agitaient des crécelles pour prévenir de leur arrivée et laisser le temps à tout le monde de s'éloigner. En réalité, Tara, cette maladie n'est pas si contagieuse qu'on le croit.
Effectivement, la littérature scientifique a montré que pour être infecté par le bacille de la lèpre, il faut vivre en contact rapproché avec un malade, c'est-à-dire presque 24 heures sur 24, pendant au moins 3, 4, 5 semaines dans un espace clos. Et alors, à ce moment-là, on court un risque. Et encore, il faut rappeler que lorsqu'on est en bonne santé, côtoyer le bacille, c'est-à-dire en fait la bactérie de la lèpre, ne pose pas de problème. Nos organismes se défendent naturellement contre cette bactérie. En revanche, si les gens sont mal nourris, en mauvaise santé, alors le bacille qui les aura contaminés ne sera pas éliminé par leur système immunitaire affaibli. Voilà pourquoi on parle souvent d'une maladie de la pauvreté. Deuxième chose, la lèpre peut rester dormante pendant 3, 5, 15 ans parfois, avant de se réveiller et d'attaquer, comme vous l'avez dit, la peau, les nerfs, débouchant parfois sur des séquelles gravissimes. C'est dire si le dépistage de la maladie dormante est indispensable. Or, c'est très difficile d'accéder aux malades dans des pays comme Madagascar, parce qu'ils sont essentiellement situés en zone rurale.
Deux invités sont avec nous pour écouter votre reportage. Emmanuel Cambeau, bonjour.
Bonjour.
Professeur de microbiologie à l'Université Paris-Cité, vous travaillez aussi à l'hôpital Bichat, à la PHP à Paris, ainsi qu'au Centre National de Référence des Mycobactéries. Et nous accueillons aussi le sociologue Jean-Michel Vaxberger, maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de Madagascar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur du livre « L'énigme et le paradoxe économie politique de Madagascar » paru chez IRD Éditions. Et vous nous parlerez plutôt du contexte qui permet à la lèpre de perdurer sur l'île. Votre reportage, Tara, débute justement dans un village très pauvre. Un village de casseurs de pierre à 350 km environ au nord de Dananarive. Ce qui veut dire en fait à 8 à 9 heures de route de la capitale. L'équipe du docteur Lala y organisait un dépistage avancé.
Docteur Lala, je suis le coordonnateur régional des luttes contre la lèpre dans la région du Bouillon.
Et ici, on est où? Alors, on n'est pas loin de la route
mais... Oui, pas loin de la route, dans un village qui s'appelle Miarnarive. Donc, c'est un village lépreux. Il y a des cas ici et il y a même des cas des refus. Il y a des cas qui refusent d'être traités. Donc, on essaie maintenant de travailler avec tout le monde quoi, pour la sensibilisation. Mais il y a encore des problèmes à cause du niveau intellectuel des gens qui ne jamais franchir l'école. Donc c'est très difficile de le convaincre.
Parce voilà. Qu'ils ne sont pas allés à l'école?
Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, parce qu'ils croient aux esprits maléfiques, aux je ne sais pas quoi. Ils disent que l'esprit refuse d'accepter le traitement. On essaie de le résoudre, mais on n'arrive pas. Donc ce monsieur-là, il fait une réaction lépreuse. Et tu vois le problème, il travaille encore en cassant les pierres pour survivre sa famille. Même il est malade, mais il travaille encore. Donc voilà. Donc tu vois
comment il marche là.
Donc là, on s'approche de la petite cahute qui est en tôle ondulée.
Donc lui, on va essayer de l'examiner parce que lui, il était dépisté de la lèpre donc il y a à peu près 8 mois.
Docteur Boule, directeur national du programme de lutte contre la lèpre, venu de Tananarive pour ce dépistage.
Donc à la suite du traitement, il a présenté des réactions lépreuses.
Donc vous le connaissez depuis 8 mois?
On le connaît très bien, lui.
D'accord.
Et c'est à partir de lui aussi qu'on a pu trouver aussi 4 autres cas de lèpre à partir de ses contacts aussi. Voilà pourquoi on le connaît très bien.
Quel est son nom?
Il s'appelle Safir. Safir.
Donc là, le monsieur, il enlève sa chemise. Donc on est chez le monsieur, Joël?
Non, il y a la maison du monsieur à côté. Mais ici, c'est une petite épicerie. C'est une case en tôle, à la fois la toiture en tôle et aussi les murs. Les cases ici ne sont pas en dur, ce sont des familles démunies pour la plupart. Beaucoup de maisons en chaume, avec les toitures en chaume.
Donc on est dans la petite épicerie, effectivement, à la table en bois, sur un tout petit banc. Est assis monsieur qui est malade. Et puis il y a plein d'enfants qui regardent par la fenêtre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là, docteur?
Moi, j'examine donc les fonctions neurologiques du patient. Donc, vous voyez, je lui touche la main avec le bout de ce stylo, il ne sent rien. Appuie-moi, ça fait. T'es trop bien de faire marine, non?
Il doit fermer les yeux, là?
Oui, pour ne pas savoir où est-ce que je touche. Donc, on va essayer. Vous voyez, ils ne sont rien du tout sur ces...
Ah oui.
Sur ces...
Ouais, non, ils ne sont rien.
Et vous voyez le problème avec... Parce que lui, il travaille donc à frapper les cailloux avec un gros marteau. Et là, quelquefois, il se blesse déjà les doigts avec le...
Ah oui.
Est-ce que tu ne peux pas mettre...
Ça va donner des lésions au niveau de la main. Excusez-moi, quelqu'un m'a...
Docteur Drin, de la Fondation Raoul Follereau, prend le relais de son collègue.
Normalement, il doit faire ce qu'on appelle trompage, lavage et... huilage
des mains.
Premièrement pour lutter contre la sécheresse, mais pour stimuler également la sensibilité.
Et il
ne le fait pas puisque peut-être qu'il n'a pas les moyens, puisqu'on aura besoin de savon et d'huile.
Donc ça fait déjà depuis 2005 qu'il a eu les taches cutanées. Mais ce n'est que l'année dernière qu'on l'a diagnostiqué. Wow. Donc ça fait quand même 14 ans qu'il a eu les taches cutanées. Il peut travailler actuellement 4 heures par jour seulement.
C'est pas beaucoup.
Même moins. Donc il dit que voilà pourquoi la maladie... Ça grave parce qu'il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas se faire soigner au niveau des centres de santé.
C'est vrai, on ne peut pas du tout se faire soigner et avoir des médicaments?
Au niveau des centres publics, donc la consultation est gratuite, mais les médicaments sont payants. Mais par contre, pour la lèpre, le traitement de la lèpre est gratuit. Mais les gens pensent souvent que tout est payant donc au niveau des centres de santé. Voilà pourquoi ils ne se font pas soigner au niveau des centres de santé.
Ce sont ses chaussures?
Oui. Lui, il dit que même s'il perd ses sandales en cours de route, il ne sent pas s'ils sont encore là ou non.
À ses pieds?
Oui.
Je peux vous poser juste une question, parce que vous avez pris sa main dans la vôtre, parce que ça ne se transmet pas du tout comme ça, la lèpre?
Non, ça ne se transmet pas comme ça, sinon on aurait tous la lèpre. La lèpre se transmet seulement par les gouttelettes salivaires et les gouttelettes respiratoires, mais on doit se mettre en contact prolongé, répété avec le patient pour qu'on puisse attraper la lèpre.
Donc ça ne craint rien quand
même? Non, ça ne craint rien. Mais ça, pour expliquer ça aux gens, c'est difficile parce que eux, la plupart du temps, ils ont peur des patients lépreux. Donc voilà pourquoi les patients aussi risquent l'exclusion sociale et la discrimination aussi.
Dans ce village, les casseurs de pierre réduisent en gravillon des sacs de 50 kilos. Ils parviennent à en faire 4, 5 par jour. Chacun leur rapporte 50 centimes d'euros. Alors rares sont les villageois qui peuvent s'offrir le luxe de consulter en ville, dans le dispensaire catholique où nous retrouvons le docteur Lala.
Dans la région, on dépiste pas moins de 400 cas par an. C'est beaucoup. On dit que c'est une zone endémique ici. C'est pourquoi on attaque les gens dans leur maison. Pourquoi ? Parce qu'ils ne viennent jamais ici à l'hôpital.
Du point de vue financier, vous avez assez de moyens pour faire ce dépistage actif ?
Et heureusement qu'il y a l'aide de la Fondation Raoul Folero. Puisque si c'est nous seuls, on n'arrive jamais à faire ça. Par exemple, je vais vous expliquer. Nous sommes ici dans le district d'Ambatoubé. On n'arrive pas à ratisser. Puisque si on voudrait vraiment qu'on élimine la lèpre, il faut ratisser tous les villages et toutes les communes. Bon, l'année dernière, on a déjà fait 3 communes. On va essayer de faire aussi 3 communes cette année.
Il y en a combien de communes ?
Bon, pour le district d'Abatoubine, il y a 13 communes. Il y a encore du boulot à faire. Hein. Voilà.
Pour l'instant, le gouvernement ou le ministère de la Santé, par exemple dans cette région, il vous donne quoi ?
Bon, dans le ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle priorisation. Donc la lèpre n'est pas priorité pour eux. Pour le moment, c'est le sida, le palu et la tuberculose. Ce sont les maladies prioritaires. Donc la lèpre, c'est maladie négligée.
Donc ils vous donnent quoi ?
Bon, je ne pourrais pas dire rien du tout, mais nos salaires et notre bureau.
Donc pas de voiture, par exemple ?
Bon, comme la voiture que j'utilise là, c'est la fondation qui m'a offert. Puis il y a 4 motos.
4 voilà. Motos, une voiture. Voiture.
Voilà.
Pour 1 million d'habitants ?
Plus d'un million d'habitants, c'est 1,5 million à peu près.
Donc, en fait, ce n'est pas l'État, c'est ça ?
Pour le moment, ce n'est pas l'État qui donne la voiture. Ce n'est pas l'État qui donne les médicaments.
Mais vous avez l'espoir que ça bouge ?
Ben oui, c'est pourquoi je suis encore là. C'est la raison pour laquelle il faut du courage. Hein. Pourquoi ? Puisque avec la pauvreté qui subsiste chez nous, et qu'il faut du courage pour affronter des... On ne sait pas ce qui va arriver dans la campagne, dans la brousse et tout ça. L'insécurité, il y a le voleur de bœufs, le brigand, quand il vous voit avec votre voiture, il pense que vous amenez des trésors, quoi. Donc, il faut se méfier. C'est pourquoi, quand on sait que c'est une zone rouge, il ne faut jamais aller seul. Il faut faire des convois, au moins 5-6 voitures en même temps. Donc il faut organiser ça avec d'autres programmes, d'autres services pour qu'on puisse faire un dépistage avancé là-bas.
Alors jour 2, on est coincé par la route qui est vraiment très impraticable. Du coup, les villageois ont aidé à dégager un grand tronc d'arbre pour pouvoir passer dans l'herbe et faire le tour de cette ornière énorme. Clément ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
À côté là du trou de la voiture, on peut passer, donc il faut se dévier. Alors.
D'accord.
Oui, c'est ça le problème de la. C'est ça la route. Oui. C'est toujours comme ça en fil. Ah bon, à la campagne, c'est juste une trace, c'est pas la route. C'est une piste, ah oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait les gens alors pour nous aider ?
Vous voyez alors que pour passer dans les champs, il faut enlever les enclos.
Salam alaikum. C'est la personne qui aide. On est presque arrivé.
C'est les gens du village, quasiment.
Les gens du village, oui. C'est les gens du village.
Soubérac, un village où Sœur Mauricia a repéré des cas de lèpre, d'où ce dépistage avancé. Mais ici, les gens veulent profiter de la présence des médecins de la capitale pour soigner d'autres maladies. Joël s'occupe des actions sociales de la Fondation Raoul Folro.
Donc, nous avons une bonne centaine de villageois qui sont rassemblés sous cet arbre en train d'attendre leur tour pour une consultation médicale. Entre-temps, avec l'agent communautaire, il y a une séance de sensibilisation qui est faite sur la lèpre et des bandes dessinées qui sont distribuées aux villageois pour qu'ils puissent lire et éventuellement poser des questions. Et donc, on a vu même les adultes, même les aînés qui étaient ici, en train de lire attentivement les bandes dessinées.
Qu'est-ce qui se passe ici, docteur Drin?
Non.
Là, juste là, cette table.
Il fait une consultation générale de toutes les maladies.
Il y a beaucoup de monde. Hein.
Mais tu sais, c'est ça le problème. Alors qu'il y a un CSP juste à côté, sur la route nationale.
Enfin, juste à côté, ça met combien de temps pour y aller?
Une heure, à plus. Mais c'est ça le problème. Et moi, je pense qu'il fallait laisser les centres travailler. À mon avis. Hein.
À l'abri du soleil brûlant, dans une case, Dr Boule examine quelques villageois. Ces nouveaux malades de la lèpre devront prendre leur traitement, 3 antibiotiques présentés dans une même plaquette, pendant 1 an.
Donc le patient, il s'appelle Ravi Lorsou Samuel, donc il a 60 ans. Il a été déjà traité donc en 2019, mais il n'a pris que 5 plaquettes seulement.
Au lieu de ?
Au lieu de 12 plaquettes. Et il a essayé quand même d'en avoir à Mampchoun et puis à Port-Perché, mais à cause de la pluie aussi, donc il n'a pas pu rejoindre les centres de santé. Donc malheureusement pour lui, la maladie a quand même progressé. Donc il a déjà eu des complications au niveau des doigts. Il a les résorptions des doigts de la main, des doigts du pied.
Ah oui, il a un trou, comme un trou dans le pied, une plaie.
Oui, c'est un gros trou au niveau de son pied droit. Donc aujourd'hui, on va reprendre donc les traitements de la lèpre là pour lui.
Mais il n'a jamais réussi à trouver des plaquettes depuis 2019.
Oui. Il a aussi essayé d'en avoir là à Mampichun, mais 5 fois il est venu là au centre de santé, il n'a pas pu en avoir, donc voilà pourquoi il s'est lassé. Donc.
Donc, dim, ça veut dire quoi?
Dim, c'est 5 fois.
5 fois.
Oui, oui. 5 fois.
Ouais, mais c'est embêtant quand même, hein, oui, parce que ça s'est arrêté au milieu. Hein. Oui.
Alors que lui, il est prêt à continuer son traitement, mais... Donc, quand il a eu les symptômes de la lèpre, donc au début, donc, il a essayé aussi de voir là, les traités praticiens. Donc. Mais comme ça n'a pas marché, donc il a essayé de consulter au niveau d'un centre de santé là, à Mampchoun.
Mais le tradit praticien, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Petit Bougas. Oui, il a vu, je n'ai pas de nul.
Il a vu de nul. Tu n'as pas de nul? Oui, le traducteur praticien a dit donc que c'est un sort jeté par quelqu'un, donc il lui a donné des plantes médicinales là, et tout ça.
Et il n'a pas cru.
Oui, au début, il a cru que c'était vraiment un sort jeté par quelqu'un d'autre, mais après les plantes qu'il a utilisées, donc il a vu que ça ne marchait pas, donc il a laissé tomber.
Donc,
il dit que les guérisseurs, là, ce sont des gros menteurs.
Et les médicaments, les vrais médicaments, il a confiance dans les plaquettes?
Oui, là, il a vu vraiment que les médicaments de la lèpre, là, ça marche très bien parce que oui, ça le soulageait vraiment.
Ce jour-là, Dr Boule aura dépisté 3 nouveaux cas sur une population de 1700 villageois.
On est à Port-Bergé, dans le quartier Tsarasod.
Sœur Mauricia.
La communauté des sœurs franciscaines servantes de Marie. Nous, les sœurs franciscaines, s'occupent des enfants, l'enfant des malades lépreux, et aussi quelques enfants qui sont orphelins.
Orphelins et orphelines.
Orphelines, voilà. Orphelines, parce que les sœurs s'occupent que des filles. Donc, il y a 2 enfants des malades lèpre qui restent avec nous comme internat ici. Elles ont étudié ici aussi. Hein. Elles s'appellent Mamzara et Tiavmzara. C'est elles qui se présentent après.
Elles vont se présenter?
Oui.
Je m'appelle la Mamzara. J'ai 15 ans. Depuis la rentrée scolaire au mois de septembre.
Tu habites ici?
En Tsakomlek.
Ce que nous allons peut-être expliquer au départ, ma sœur, c'est qu'il s'agit d'une fratrie de trois enfants. La mère était gravement malade de la lèpre. Elle a été traitée par la sœur Mauricia ici à Port-Berger, au centre. Et à la fin de son traitement, comme elle présente encore jusqu'à présent de nombreuses séquelles, dues à la maladie, des infirmités assez importantes, sœur Mauricia, justement bien au courant des difficultés qu'elle traverse, a sollicité l'aide de la Fondation pour appuyer la scolarité de ses enfants. Donc ici nous avons Mamzar qui a 15 ans et qui est en classe de 5e. Ensuite il y a Tiavnzar, sa petite sœur, qui est en classe de 7e. Et ensuite, nous avons Laurier, leur frère aîné, qui a 23 ans et qui est en première année au collège professionnel agricole.
Je vais parler à sa petite sœur.
Bonjour.
Tu parles français?
Non.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire, avant de venir ici, tu faisais quoi?
Avant, elle fréquentait l'école, mais d'une manière sporadique.
Elle a dit que c'est à cause des professeurs. Parfois, ils sont absents parce qu'ils vont bon, ils ont pas envie. Non, je dis ce qu'elle a dit.
De temps en temps, il n'y avait pas de professeurs dans l'école.
Dans le village?
Oui, oui, oui.
Elle dit que parfois les enseignants vont jouer au domino ou encore ils occupent un autre emploi ailleurs.
D'accord. Et on peut parler avec le garçon, je ne connais pas votre nom, pardon.
Je m'appelle Tsaraman Ngalarié, j'ai 22 ans, je suis l'étudiant d'agricole.
Ta maman, elle est malade. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle a comme maladie?
Il ne connaît pas ou il ne souhaite pas dire le nom de la maladie, mais il décrit qu'il a des plaies importantes sur la peau. Sur la bouche?
Sur le visage.
Est-ce que tu peux expliquer, ma sœur? Oui.
Les plaies, c'est sur le visage.
Tu fais de son travail, elle était très exposée au soleil. Ça ne favorisait pas la guérison. Et elle revenait souvent vers le médecin. Et le médecin, à certains moments, il avait dit clairement, vous, de ce village, vous avez les maladies de peau, vous revenez souvent, j'en ai un peu assez.
Le médecin, il voulait dire que le village, c'est un village de lépreux.
Donc le médecin, il a refusé à un moment donné de soigner ta maman.
Il a refusé de la soigner. En fait, c'est une sage-femme qui s'est exprimée ainsi, mais ce n'est pas un médecin.
Et à part la sage-femme du village, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui rejetaient sa maman?
En fait, il y a vraiment d'autres villageois qui se sont exprimés ainsi. D'abord, ils ont essayé de les éviter. Et ensuite, ils ont dit clairement, on n'aimerait pas trop être en contact avec vous parce que vous risquez de nous transmettre la maladie. Oui, ce sont des voisins et même des membres de la famille qui se sont exprimés ainsi.
Et vous, c'était pas seulement la maman?
Oui, c'était lui, sa maman, les petites sœurs aussi. Par exemple, quand elles veulent jouer avec d'autres enfants, il y a des enfants qui refusent de se mêler avec elles. Et après, elle a expliqué qu'elle-même, en tant qu'enfant,
elle a souffert du rejet d'autres camarades de même âge, pour jouer par exemple.
Superstition, ignorance, mais aussi pauvreté, la lèpre se nourrit de tous ces mots. La lutte contre la maladie pâtit d'un contexte où, il faut bien le dire, une petite élite s'accapare les richesses de tout un pays. Nous voici à Fort Dauphin, tout au sud de l'île. Sa plage est l'une des plus spectaculaires de Madagascar. Sur la piste vers le dispensaire de la Congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, on se croirait au bout du monde. Mais c'est une illusion.
Nous allons dîner et prier d'abord.
Ici, la société QMM, détenue par l'État malgache et à 80% par le géant minier Rio Tinto, exploite un gisement d'ilménite, un minerai composé d'oxyde de fer et de titane, au risque de chasser tout un village.
Ma soeur, moi j'ai besoin de comprendre. Le danger de QMM, c'est quoi ?
C'est sale parce qu'on emploie ces rivières-là.
Sœur Mathilde.
Pour boire les sangs et pour laver les linges et
donc
tout
les
ça.
Les rivières sont polluées.
Oui, polluées, oui. Ça ne pousse pas. Tout est mort, les plantes. C'est même chez nous ici. Il y avait beaucoup de bananiers, de tout ça. Ah, jusqu'à maintenant, ça tombe sur place. Des ananas.
Tout ça, ça ne pousse plus dans votre jardin.
Oui. C'est pas comme avant.
Déjà maintenant.
Déjà maintenant, oui. Ça, on voit bien.
Mais est-ce que vous pouvez expliquer si oui ou non vous allez devoir partir ? Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que quelqu'un est venu vous voir ou...
Parce que quand il était venu ici, le représentant du ministère de Tana, ils ont dit que vous devez partir d'ici. Parce que vous ne pouvez pas rester ici à cause des poussières, tout, des radioactivités, je ne sais pas.
Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit.
Oui, c'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui se passera si le centre doit fermer avec tous les malades ?
Ah, c'est ça, c'est vraiment, c'est triste. Oui. C'est triste, mais on ne sait pas. Mm-hmm. Il y a des dispensaires, l'école, tout ça. Même les parents ne sont pas contents de ça, mais on ne sait pas.
Ça fait combien de temps qu'il existe, le dispensaire ?
De 85 ans. Nous venons de fêter le jubilé de 85 ans. Mm.
Mais donc, oui, ça va être compliqué. Ici, c'est très grand en plus, non ?
Ben, l'école, c'est quand même une école qui accueille 350 enfants. Et les malades, il y a un potentiel d'hébergement de 70 malades qui sont en structure pavillonnaire. Et puis, à côté de ça, elles ont un gros patrimoine d'arbres fruitiers, des litchis, des avocats, des manguiers. Elles ont une rivière à côté sur laquelle elles peuvent irriguer leurs champs. Donc repartir de zéro, c'est quasi impossible. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sœurs, leur capacité d'accueil est liée aux ressources qu'elles ont. Demain, on les met dans un terrain vide. Avec quoi elles vont nourrir les malades et tout ça ? Elles n'ont pas de liquidité. Elles vivent sur une rentabilité de leur culture. On leur supprime leur culture, elles peuvent plus nourrir les malades.
Mais les gens du village aussi, c'est plein beaucoup. Les gens du village aussi, où est-ce qu'ils vont ? Ils n'ont pas de terrain.
Où est-ce qu'ils vont aller ?
C'est ça, on ne sait pas où c'est. Hein.
La fondation Raoul Folraud appuie le dispensaire de Fort Dauphin depuis des années. Le docteur Bertrand Cauchois vient régulièrement ici voir les malades et former les soignants.
Là, par contre, on est gêné au niveau cutané avec...
L'absence de lumière.
Voilà, le fait de ne pas bien y voir, c'est toujours un peu gênant. Donc souvent, on les met dehors pour mieux les voir.
Tu peux venir à la lumière ?
Non, c'est comme les tannes.
Voilà. Lumière du jour et pas trop de pluie pour l'instant. Donc là, je reconnais que avec l'éclairage, je ne vois pas trop les taches. Là, hein. Ouais. Il peut se tourner. Il se lève. Oui, ici, ça se voit bien, il a des taches. C'est pas très évident, mais là, on les voit, il a effectivement des taches. Donc, au niveau de la sensibilité, les deux jeunes, là, qui fait l'examen de la sensibilité, là ? Là, on a deux jeunes infirmiers, donc on en profite pour leur apprendre à examiner un malade. C'est pas très évident, hein, quand même, les taches, là. Donc là, c'est Maurice qui lui-même est un ancien patient qui a choisi de faire ses études d'infirmier. Donc tu lui expliques qu'est-ce que tu fais.
tunjuk terat ke, tunjuk ayah konsum no, dzere no, tunjuk no tangan, awa mana agna isketerong.
Donc Maurice, il a pris un petit coton, il va toucher les taches pour voir si le monsieur sent quelque chose.
Rien là, tunjuk.
Pour l'instant, il sent bien.
Donc là, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Il a des tâches qui sont sensibles, d'autres qui sont insensibles. Donc on est quand même en faveur d'un diagnostic de LEP. Pourquoi les tâches sont insensibles? Parce que c'est les micro-terminaisons nerveuses qui commencent à être atteintes. Il ne faut pas l'oublier, la maladie de la LEP, c'est une maladie neurologique. Donc maintenant, si on veut confirmer le diagnostic, si on veut être sûr, qu'est-ce qu'on va faire comme examen?
Je regarde les nerfs aussi.
Tu regardes les nerfs. Yeah. On va l'examiner. Donc là, je suis en train d'examiner un nerf qui passe au niveau du coude, qui est le nerf cubital. Mara, je lui demande s'il a mal, parce que des fois, quand on palpe un nerf au niveau... Mara ou Tsimara?
Mara, ce n'est pas un docteur?
Bon, tiens, vas-y, palpe ici, là, dans le coude, là, regarde. Là, il a un gros nerf, là, tu fais rouler, là. OK. Donc maintenant, on examine les nerfs. Il a un gros nerf cubital sur le bras droit. Il a en plus des douleurs. Donc là, je suis d'accord avec le diagnostic qu'a posé le docteur Harris. Quand je dis « je suis d'accord », ça veut dire que souvent, c'est pas simple. Et c'est bien qu'on soit deux ou trois à examiner le malade. Parce que quand on va poser le diagnostic, on va partir sur un traitement qui va durer 12 mois. Donc on n'a pas le droit non plus de donner 12 mois de traitement si on n'est pas sûr que c'est la LEP. Donc c'est bien, nous deux, on discute, on n'est pas absolument sûr. Après, on peut faire un prélèvement pour confirmer au niveau du laboratoire.
Il peut retrouver sa sensibilité.
Oui, il peut retrouver sa sensibilité. Alors là, la question, c'est le corticoïde, quelle est l'action du corticoïde? Ça va diminuer... En fait, le nerf est enveloppé dans une enveloppe, pas très élastique. Donc quand le nerf s'enflamme, l'enveloppe, elle, n'est pas extensible, donc le nerf se retrouve augmenté de volume, mais prisonnier dans un étau, et cet étau va entraîner une altération des fibres neurologiques. Donc là, on commence à avoir une toute petite atteinte de la sensibilité. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on le met ou est-ce qu'on ne le met pas sous corticoïde? Aujourd'hui, on fait le choix de ne pas sauter tout de suite sur les corticoïdes, mais on surveille. Parce que nous, notre but, c'est d'éviter une atteinte des nerfs. La lèpre, on arrivera toujours à la soigner. Par contre, s'il y a une destruction des nerfs... Et donc là, c'est important. On a un malade qui a un stade relativement débutant de la maladie. Sa maladie, dans l'interrogatoire, il a dit que ça fait 2 ans que ça a évolué quand même. Donc 2 ans, il commence à avoir une atteinte nerveuse. Donc, je me pose, au moment où je vous parle, me pose encore la question. Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas sous corticoïde? Je suis encore un peu dans la réflexion. Je vais en discuter avec mon collègue, docteur Harris, qu'est-ce qu'on fait?
Vous, docteur Harris, vous reviendrez quand la prochaine fois?
Mercredi. Je passerai ici 2 ou 3 fois par semaine. Je suis à la retraite. C'est pour cette raison que je peux arriver 2 ou 3 fois. Mais je fais aussi cabinet médical dans mon quartier.
Le docteur Harris, nous on le connaît depuis... Il a longtemps aidé les sœurs, bénévolement. Et puis quand il est à la retraite, il a accepté de venir un peu plus souvent. Donc il a une indemnité pour venir. Et en venant plus souvent, eh ben, il développe ses connaissances sur la LEP. Parce que la LEP, c'est pas inné. Il faut travailler dessus pour... Les cas de LEP ne sont pas toujours simples. Hein. On vient d'en voir un exemple.
OK. Bonne continuation. Merci.
À Madagascar, le programme national de lutte contre la lèpre, avec l'appui de la Fondation Foilereau, dépiste environ 1500 nouveaux cas par an. C'est trop peu, affirment les équipes, car le bacille peut incuber pendant des décennies. Or, prise trop tard, la lèpre finit par ronger les nerfs et les os, transformant mains et pieds en moignons. Une tragédie pourtant presque facile à éviter.
Donc voilà, c'est une jeune fille qui a 20 ans aujourd'hui. Dans ses antécédents, il semble qu'elle avait déjà été traitée pour une lèpre pendant 1 an en 2017, mais sans qu'on sache si le traitement avait été très bien conduit. Et elle s'était présentée avec des réactions cutanées sur le visage et surtout des douleurs aiguës au niveau de tous les nerfs. Et elle avait des troubles de la sensibilité. Elle sentait absolument rien au niveau de sa main et au niveau de ses pieds, à tel point qu'elle avait même des brûlures. Tu parles pas français, toi, un petit peu ? Quelle ? Non. Donc elle a récupéré complètement de sa sensibilité et au niveau des troubles moteurs, elle avait une faiblesse au niveau de l'écartement du cinquième doigt. Donc là, tu écartes par là
et tu m'empêches. Ah, voilà. Oui. Et ça, elle était incapable de résister. Donc, ça
c'était
veut dire
en juin 2023.
Ça, c'était en juin 2023. Et là, on est après 9 mois de traitement.
Ça va incroyablement mieux.
Elle est devenue complètement normale. En plus, ses taches cutanées ont complètement disparu. Donc, elle ne se rappellera même plus qu'elle a eu la lèpre. Donc, ça, c'est une grande réussite. Là, elle a une peau qui est douce, qui est souple. C'est elle bien. A complètement récupéré. OK. Merci. Ça, le traitement. Hein? Misote à ma sœur.
Madagascar, île immense, île magnifique, mais dont 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 1,90$ par jour. Une pauvreté extrême et qui s'aggrave, dénonce Asvaz, chanteur malgache et témoin impuissant.
Effectivement, le peuple ne mange pas. C'est-à-dire que les gens n'ont pas assez d'argent pour vivre. Et puis le prix du riz, tout ça... Ça a augmenté.
Beaucoup.
On mange plus du riz comme on en mangeait il y a 40 ans, 20 ans. Les gens, auparavant, quand ils achetaient un kapok, c'est un instrument de mesure pour le riz, on achetait au kapok. Le kapok, c'était une boîte de Nestlé. C'était
Une dizaine de centimètres.
Et maintenant, le kapok, il est vraiment descendu parce que le prix de riz a augmenté. Les gens prennent les récipients pour mettre les sauces tomates.
Tout petit.
C'est 3 cm. Hein.
3 cm de haut.
De haut, 3 cm.
Et l'huile ?
Et l'huile, l'huile, c'est pareil, on n'en produit pas, on en fait venir d'ailleurs. Et l'huile, c'est carrément, je vois les bouchons pour fermer les bouteilles d'eau minérale. Les gens achètent l'huile avec ce récipient.
Dans ce récipient ?
Dans un petit récipient. Après, on le met dans un sachet en plastique et hop.
Ils rentrent chez eux.
Regarde, c'est comme pour les voitures, on ne fait jamais le plein. Les taxis ne font jamais le plein, c'est toujours... 10 000, 20 000, 5 000, ce dont ils ont besoin.
10 000, ça fait 2 euros à peu près.
10 000, oui, c'est à peu près 2 euros. Hein.
Mais comment est-ce qu'on en arrive à une situation pareille quand même?
Moi, je vais dire peut-être ce qui a déjà été dit. On me dit, je suis riche, mais pauvre. Riche, parce qu'effectivement, en regardant le sous-sol, c'est un pays qui est riche. Il a de quoi très, très, très riche. Il y a toutes sortes de pierres, surtout les cristaux, de l'or. Actuellement, c'est la ruée vers l'or. On aimerait bien que ça sorte et qu'enfin, le peuple malgache puisse voir leur propre Eldorado chez eux. Quoi. On est riche aussi au niveau de la nature. Il y a plein de choses qui rendent Madagascar riche de sa faune aussi. Hein. Même si elle n'est pas comme celle de l'Afrique, mais il y a une faune bien particulière à Madagascar, dont les lémuriens, hein, qui disparaissent aussi. Voilà, on est riche de. Puis on est riche de nous-mêmes aussi, de notre propre histoire. Mais on ne le voit pas dans les assiettes, quoi.
Madagascar démuni face à la lèpre, c'était un reportage de Tara Schlegel avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Emmanuel Cambeau, professeur de microbiologie à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la lèpre, et Jean-Michel Vaxberger, sociologue spécialiste de Madagascar, sont avec nous pour commenter et compléter ce reportage. Jean-Michel Vaxberger, j'aimerais vous faire réagir au propos de ce chanteur qui concluait le reportage. Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde, continue de s'appauvrir. Pour quelles raisons ?
Effectivement, c'est un pays qui continue de s'appauvrir. C'est un des seuls pays au monde dont le revenu par tête ne cesse de diminuer depuis les années 60. Et donc, il a une trajectoire tout à fait spécifique, même au regard des pays africains qui connaissent pas les trajectoires extraordinaires, mais qui quand même connaissent bon an mal an des croissances. Et comme l'a dit votre interviewé, effectivement, pas un pays qui est démuni de richesses. Il souffre pas de. C'est pas un pays du Sahel. Il n'y a pas une surpopulation démesurée. Il y a de l'espace. Il y a des richesses. Il y a des sous-sols. Il y a des mines. Et Rio Tinto, on en a parlé. Donc il y a effectivement des richesses, mais de fait, elles sont pas du tout réparties. Un petit groupe d'élite se maintient petite part de gâteau, ils réalisent même pas les investissements. Le taux d'investissement, j'ai regardé le rapport de la Banque mondiale avant de venir là, le taux d'investissement, il s'est complètement écroulé. C'est-à-dire qu'en fait, ils se suffisent d'un petit gâteau à partager entre peu, donc du coup ça fait des richesses importantes, plutôt que d'ouvrir avec en risquant, je sais pas quoi, une déstabilisation du pays, et donc ça se maintient comme ça, bon an mal an, et effectivement les élites sont plutôt prédatrices que développementalistes, quoi.
Et dont les conséquences pour l'ensemble, ou quasiment l'ensemble de la population, c'est là actuellement une forte inflation, en particulier la hausse des prix alimentaires et notamment le riz qui est quand même la base de la nourriture à Madagascar. C'est assez impressionnant parce que ce riz, il y en a une partie qui est produite sur place, mais ça ne suffit pas. Le pays n'est pas en autosuffisance.
Non, ils sont obligés d'importer du riz. Il se trouve que la productivité dans la riziculture est extrêmement faible parce que les agriculteurs sont au niveau zéro en termes de revenus et donc ils n'ont pas de moyens d'utiliser des intrants, ils n'ont pas de capital quasiment, peu de charrues, peu de... dans plein d'endroits, ils sont complètement reculés. Donc ils ont l'angab pour travailler le riz. Parfois même...
C'est la bêche.
Et parfois, on a parlé de l'insécurité. Et l'insécurité rajoute encore des choses parce que, par exemple, ils peuvent même pas faire piétiner leur rizière par leurs zébus parce qu'ils ont peur de se les faire voler, donc ils les cachent quelque part et donc ils font tout à la main et donc ils peuvent pas se sortir de ça, hein, effectivement. Par ailleurs, il y a le niveau d'éducation aussi, mais c'est d'abord un problème de revenus, il y a aussi un problème d'éducation. Mais...
Alors, vous parlez du problème d'éducation, moi ça m'intéresse par rapport à cette problématique de la lèpre, parce que on voit bien qu'il faudrait encore sensibiliser la population, lui faire comprendre pourquoi il est utile de se faire dépister, pourquoi il est important de suivre son traitement, alors qu'il y a beaucoup de superstitions et la concurrence de médecine traditionnelle. Donc cette question de l'éducation, en réalité, elle serait assez fondamentale.
Oui, elle est fondamentale. Et il y avait autre chose de très intéressant dans votre reportage, c'est cette jeune fille qui disait qu'il n'y avait pas de maître à l'école. En fait, il y a des écoles presque partout. On voit beaucoup d'associations construire des écoles, mais c'est des écoles souvent qui sont vides parce que les instituteurs n'arrivent pas, tout simplement parce que il n'y a pas une politique de scolaire qui permet ça. C'est beaucoup d'instituteurs. Il y a un système qui s'appelle les instituteurs FRAM. Ils sont pas payés par l'État, ils sont payés par les familles. Donc ils arrivent sur place et il faut que les familles puissent les payer ou non. Et la motivation pour venir et pour rester est minime. Donc effectivement, ils vont travailler ailleurs parce qu'ils n'ont pas de perspective de carrière, ils n'ont pas de revenus. Et donc c'est un vrai problème, effectivement.
Alors pas de revenus, un coût de la nourriture, un coût de la santé aussi. Emmanuel Cambo, il faut se payer ses médicaments au quotidien. Alors pas ceux pour la lèpre, hein, eux ils sont gratuits.
Oui, la lèpre, depuis qu'a été mis au point ce traitement qui est partout dans le monde, a réussi à faire donner des médicaments gratuitement. Donc ça a été d'abord payé par la Fondation Sasakawa et puis maintenant la Fondation Novartis. Et c'est l'OMS qui distribue les médicaments. Donc les médicaments sont gratuits. Mais effectivement, comme il a été dit dans votre reportage, il faut pouvoir arriver au centre de santé. Et je pense qu'à Madagascar, c'est un des problèmes qu'on ne voit pas dans d'autres pays pour lesquels la densité est peut-être plus importante. Il y a moins de montagnes, il y a plus de circulation, de moyens de circulation. À Madagascar, c'est vraiment difficile d'aller jusqu'au centre de santé. Je pense qu'on l'a bien compris. Pour ensuite être pris en charge, parce que les médecins sont de bonne qualité, et j'en ai reconnu plusieurs dans votre reportage, et une très bonne qualité, mais il faut arriver jusqu'au médecin. C'est ça qui est difficile, et on a souvent une difficulté à comprendre cela.
Tarache Légal.
Oui, je me demandais quand même, docteur Emmanuel Cambo, s'il y a suffisamment de médecins. Parce que ce qu'on dit beaucoup aussi sur place, c'est que les centres de santé, comme vous le dites, ils existent. C'est difficile d'y aller, mais ils existent. En revanche, il n'y a pas forcément des médecins dans les centres de santé.
Alors, j'ai fait un petit calcul en venant. On a fait une étude scientifique avec Bertrand Cauchois, là, que vous avez interviewé, avec la Fondation Follereau, où, dans 6 villages, pendant une année, chaque personne a été vue par un médecin. Ça paraît assez banal, mais là, c'était extraordinaire. Et on a dépisté 70 cas de lèpre. Bah, l'année suivante, il n'y en a eu que 2. Parce que finalement, l'important, c'est que chaque personne soit vue par un médecin au moins une fois, on va dire peut-être tous les 5 ans. Et comme vous le dites, il y a peut-être pas, si on rapporte ça à la population de toute l'île, peut-être on n'a pas suffisamment de personnes. Et puis aussi, c'est difficile, vous l'avez vu par vous-même, d'aller d'un village à l'autre. Il faut plusieurs jours, comme ça a été dit. Et donc, il y a toute cette organisation qui manque.
Oui, c'est le problème d'infrastructure qui est partout dans Madagascar, Jean-Michel Vaxberger.
Oui, oui, les infrastructures sont déliquescentes. La difficulté à se déplacer est colossale, en particulier en saison des pluies, ça a été dit, mais parce que les routes ne sont pas entretenues ou pas faites. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a 11% de la population rurale qui a vraiment accès à une route potable. Donc, en fait, ils sont coincés souvent dans leur région. Et donc, même quand dans le reportage, il était dit il y a le centre de santé à 1 heure, d'une part, ce n'est pas sûr qu'ils trouvent des médicaments et des choses dans le centre de santé, parce que c'est souvent des infirmiers qui sont là. Et d'autre part, il faut pouvoir y aller. Donc, bon.
À propos des routes, on me disait, je pense que vous y allez depuis très longtemps, hein, on me disait que véritablement, elles se sont dégradées ces dernières années en particulier. Sauf dans la capitale, à Tana, où la liaison vers l'aéroport a été refaite récemment, mais sinon, ça a l'air d'être vraiment de pire en pire.
Il y a quelques routes qui sont bien. Je suis allé il n'y a pas très longtemps. Je suis allé à Matou de Razak, le Grognari. Et là, vous avez quasiment une autoroute extraordinaire. Comme je savais pas qu'il y avait ça à Madagascar. Mais tout le reste, c'est pas du tout. Avant, pour aller à Tuléar, on pouvait le faire en une journée. Maintenant, c'est impossible en voiture de faire ça en une journée. On y va en 2 journées. Et encore, on met un temps. On est obligé de s'arrêter à finir en dessous. Et on est complètement crevé en arrivant. C'est les circuits. Et encore, c'est une nationale. Hein.
Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'effectivement, en plus, le voyage est particulièrement inconfortable. Emmanuel Cambo, en plus, les centres de santé, il faut y aller pas seulement une fois, parce qu'en fait, il s'agit d'un traitement de longue durée pour soigner la lèpre.
Oui, c'est ce qui est difficile actuellement, et c'est pourquoi il y a une recherche sur des nouveaux traitements. Le traitement est tout à fait efficace, mais il faut prendre des médicaments pendant une année. Je ne sais pas si aucun d'entre nous l'a fait. C'est difficile. Il faut avoir les médicaments.
Il faut observer son traitement.
Il faut y penser. Il faut pas que ce soit dégradé par la chaleur et l'humidité. Donc c'est vrai que si on avait un traitement qui puisse se donner en une fois, ça serait formidable. Mais on n'y est pas encore. Et c'est la raison pour laquelle il faut de la recherche. La recherche est difficile parce que bien que ce soit une bactérie qui se transmette, c'est une maladie infectieuse. On ne sait pas cultiver la bactérie in vitro, et donc les recherches sont très très longues, très très lentes. On a besoin de modèles animaux, et donc on n'a pas encore le traitement de demain. Mais tout de même, certains y travaillent, heureusement.
Alors vous dites certains y travaillent. On sait que d'autres maladies sont considérées comme largement prioritaires sur la lèpre. Est-ce que la lèpre est une maladie qui est aussi négligée par la recherche?
Alors, elle est négligée par la recherche parce que, on l'a bien dit, les personnes qui vont bénéficier des traitements sont pauvres. Donc, ils vont être pris en charge par des fondations et comme il a été dit aussi dans le reportage, on s'intéresse plus aux maladies qui nous concernent. On donne plus d'argent aux maladies qu'on va avoir, le cancer, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. C'est pas du tout un reproche, mais il faut aussi s'intéresser aux autres maladies, en particulier transmissibles, puisque justement, on est responsable sur toute la planète de la transmission de ces agents infectieux.
Est-ce qu'il y a quand même des pistes intéressantes, des nouveaux traitements ou des traitements plus simples?
Alors, on s'appuie beaucoup sur la recherche sur la tuberculose, qui est une maladie, on va dire, aussi négligée, mais beaucoup plus fréquente. Donc, il y a un petit peu plus d'envie de trouver des traitements, puisque ce sont des bactéries qui appartiennent à la même famille.
Donc, il peut y avoir des recherches utiles pour l'une et pour l'autre.
Mais il faut dire aussi que dans le monde, on utilise beaucoup d'antibiotiques maintenant. Je dirais un peu pour un oui, pour un non, on le sait bien, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et il y a déjà des résistances aux antibiotiques du traitement de la lèpre. Donc moi, je suis chargée par l'OMS, justement, de recenser ces résistances. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut trouver des nouveaux traitements.
Pas de vaccin pour l'instant. Pas de vaccin pour l'instant, demandez Aurélie.
Alors, on a la chance, je vais vous dire, on a de la chance, c'est que le BCG que vous connaissez, parce que dans notre génération, on a tous reçu le bacille de Calmette et Guérin, le vaccin contre la tuberculose, protège en partie contre la lèpre, et dans de nombreux pays endémiques, le BCG est encore obligatoire. Donc probablement, s'il n'y avait pas le BCG, on aurait plus de cas de lèpre. Mais un vaccin très efficace à 100%, on va dire un peu comme on l'a eu pour le Covid. Non, c'est pas pour demain.
Docteur Cambeau, moi je voulais vous interroger sur les médicaments qu'on peut donner en prévention par contre. Là, il y a des progrès qui sont réalisés en ce moment. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui existe?
Alors, on s'est beaucoup dit, comme dans la tuberculose, il est difficile, on a vu, de traiter un patient. C'est un an de traitement, les séquelles, les complications de réaction qu'on doit traiter par corticoïde. Donc peut-être si on était un peu plus tôt dans la maladie, si on pouvait donner un médicament dès qu'on va être infecté. À ce moment-là, ça serait plus facile. Et effectivement, on peut donner à ce moment-là un seul comprimé. Donc, il y a une première étude qui a été faite qui a montré que si on prend un comprimé de rifampicine, eh bien, ça diminue de 50% la probabilité d'avoir une lèpre. Si, par exemple, votre père, votre mère a eu la lèpre, vous vivez avec votre grand-père qui a la lèpre. Et donc, dans ces situations, on conseille de faire une prophylaxie. Mais ça ne peut pas empêcher l'apparition de tous les cas.
Et alors, puisque la lèpre n'est en réalité pas très contagieuse, est-ce qu'une simple amélioration des conditions de vie pourrait permettre de réduire sa diffusion?
Il faut se rappeler que la lèpre a été découverte en Norvège, à Bergen. Donc, on va d'ailleurs organiser cette année une semaine de cours et de workshops là, dans 2 semaines. Ça fait 150 ans que ça a été découvert. Donc, c'était pas du tout une maladie tropicale. Vous savez que l'OMS dit que ça appartient aux maladies tropicales négligées. C'est pas du tout tropical. On en a eu dans tous nos pays. Et vous savez bien que dans chaque ville, même de France, j'ai entendu il y a pas très longtemps, ah ben oui, là, c'était le plateau où on mettait les lépreux. Et on a des cimetières de lépreux. Donc, chaque pays, une fois que le pays a eu un revenu économique élevé, finalement, la lèpre a disparu. Le Japon est probablement un des pays qui a eu les derniers cas de lèpre autochtone. Et donc, on voudrait bien sûr que tous les pays fassent de même. Voilà, je crois que c'est le grand espoir.
Alors, la lèpre, une maladie de la pauvreté, on l'aura bien compris. Et vous avez souligné, Jean-Michel Vaxberger, les fortes inégalités qu'il y a à Madagascar. Un pays où l'aide publique au développement assure près de 70% des investissements de l'État. Donc, puisque Madagascar est un pays sous perfusion internationale, il doit quand même y avoir des moyens de pression sur l'État malgache pour qu'il fasse un meilleur usage de ses financements.
L'aide internationale, souvent, c'est une aide conditionnée, parfois c'est une aide budgétaire, mais en tout cas là, c'est relativement suivi. Ce que déplorent souvent les bailleurs, c'est qu'ils ont même du mal à décaisser. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une première tranche, et comme c'est pas forcément suivi des faits, ils ne décaissent pas la tranche suivante. C'est l'horreur des bailleurs, d'une certaine façon, d'être à Madagascar, parce qu'ils arrivent souvent pas à trouver des projets finançables qui vont être aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que en fait, la dépense budgétaire de l'État, elle est extrêmement faible. C'est un des pays les plus dans lesquels l'État dépense le moins. Ça fait à peu près 60 euros par personne et par an. Et c'est pas une caractéristique de pauvreté. Par exemple, la pression fiscale est extrêmement faible. Je sais plus exactement en tête, mais quelque chose comme un peu plus de 12% seulement. C'est-à-dire que il n'y a pas la volonté de taxer les entreprises, il n'y a pas la volonté de faire, il y a en quelque sorte un arrangement, hein, parce que ils se sentent finalement pas interdépendants, tout ce petit monde. ils se sentent pas menacés. C'est un pays calme. Les gens sont non violents globalement. Et donc on voit bien l'exemple de Rio Tinto est très intéressant. Rio Tinto compte plus que le centre qui s'occupe des lépreux, parce que là il y a des intérêts financiers et en fait les populations vont pas se mobiliser beaucoup. Ça va pas. Ça vient un peu. Mais c'est très léger.
D'ailleurs, il y a eu des morts hein, parce que ces manifestations ont été réprimées et il y a eu 6 personnes qui ont été tuées au cours de manifestations. Là, je crois que c'était l'année dernière.
Il y a quelques associations qui se mobilisent, mais globalement c'est très faible parce que les gens sont atomisés. Ils sont très très loin. Ils ne communiquent pas les uns avec les autres. Ils n'ont pas d'informations. Jusqu'à présent, je pense que ce petit monde ne se sent pas menacé et pas incité, et ils ne sont pas responsabilisés non plus. On a fait une enquête sur les perceptions des élites. Ils parlent de la pauvreté en termes culturels, quoi. Et donc, ils ne se sentent pas, très très rarement, ils se sentent impliqués dans les causes de la pauvreté.
Et cette défaillance de l'État, elle n'est pas liée à tel ou tel bord politique en particulier ?
Non, elle est liée à un système. C'est un système, pas une question. D'abord, bord politique, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas de programme politique. Il y a des hommes politiques qui se succèdent et qui, on ne peut pas incriminer. C'est tout un système qui est perverti d'une certaine façon.
On peut quand même dire que le président là vient d'être réélu, mais qu'il y a eu une abstention énorme.
Oui.
Ça n'a pas du tout dérangé les pays occidentaux, voilà.
Oui, pas du tout, effectivement.
Emmanuel Cambo, l'OMS a proposé de ne plus utiliser le terme « lèpre » et de parler plutôt de la maladie de Hansen, du nom de celui qui l'a identifié. C'est pour que les malades soient moins stigmatisés.
Alors ça, c'est une longue histoire et je ne vais pas aller dans le détail. Il y a 2 pays principaux qui souffrent de la lèpre, l'Inde et le Brésil. Et au Brésil, il s'est trouvé que, parce qu'il y a encore de très nombreux pays qui ont ce qu'on appelle le stigma, qui ont des lois qui interdisent aux gens qui ont la lèpre de faire certaines choses. Et donc au Brésil, à un moment donné, ils ont pensé que ça serait mieux d'appeler ça la Hanseníase, donc la maladie de Hansen, mais c'est quand même très discuté dans de nombreux pays. Donc je pense qu'on ne pourra pas généraliser ce terme. D'autant plus que Armand Hansen, bien qu'il ait découvert le Mycobacterium lépré, est un médecin qui n'a pas que des qualités. Donc je ne suis pas sûre qu'on appellera ça comme ça partout.
Merci Emmanuel Cambo, merci Jean-Michel Vaxberger. Madagascar démuni face à la lèpre. Le grand reportage de cette semaine était signé Tara Schlegel. À la réalisation, Annie Bro. À la technique, Sébastien Royer. Merci bien sûr à la documentation de Radio France. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.